France Musique.
Marie Leschinska, une reine de goût à Versailles. Rien ne prédispose Marie Leschinska à devenir reine de France. Elle est la fille de Stanislas Leszczynski, roi échu de Pologne, contraint de céder son trône à l'électeur de Saxe, Auguste II. La famille s'établit alors à Wiesenburg, en Alsace, en 1719. Sa gloire passée autorise son père à envisager pour elle une union avec un grand personnage. Mais après plusieurs déconvenues, l'histoire prend un autre tour. C'est non pas une alliance de sang royal qui attend la jeune femme, mais une union avec le roi lui-même. En effet, en 1723, la disparition du régent fait craindre la consécration de la branche cadette d'Orléans. Si Louis XV venait à disparaître sans descendance, l'héritier du trône de France deviendrait le fils du futur régent. Or, à ce moment-là, Louis XV, jeune roi de 13 ans, est fiancé à l'infante d'Espagne, seulement âgée de 7 ans. L'alliance est rompue au risque d'un incident diplomatique. Le duc de Bourbon, premier ministre du souverain, se met alors en quête d'une princesse catholique, de sang royal et capable de mettre rapidement au monde un dauphin. C'est ainsi que Marie Leschinska, fille d'un roi détrôné, s'unit à Louis XV le 5 septembre 1725 dans la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau. Elle a 22 ans, 7 de plus que le souverain. Durant tout son règne, Marie se plie aux impératifs du cérémonial, s'appliquant toujours à mener une vie exemplaire, dénuée d'intrigues. Et selon Madame Campan, qui l'a connue dans sa jeunesse, Marie Leschinska a de la finesse dans l'esprit. Après 42 ans passés à Versailles, elle est la souveraine à avoir le plus longtemps partagé la vie de la cour versaillaise et sans aucun doute, elle a fortement influencé l'aménagement du château de Versailles. Par la création d'appartements privés, mais aussi la vie artistique de son époque, par ses nombreuses commandes aux artistes et aux manufactures. Elle n'hésite pas ainsi à se fournir auprès de Marie-Anne et Marguerite Philidor, mercière et marchande de mode, sœur du musicien François-André, dit Philidor le Grand. C'est d'ailleurs lui qui signe « marchand mercier » sur les actes civils, car il représente ses sœurs qui travaillent dans leur boutique de mercerie et qui sont sans alliance. Leur commerce se trouve alors dans le quartier de Saint-Germain à Paris. C'est à l'adresse « chez les demoiselles Philidor, marchandes de mode de la reine » que leur frère met en vente sa partition de l'art de la modulation. Si la reine consulte les sœurs Philidor, c'est parce qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, ce n'est plus la cour qui dicte la mode, mais la ville, en l'occurrence Paris, devenue la capitale européenne de l'élégance. Les conquêtes coloniales, le développement rapide de l'industrie, dû en grande partie à des découvertes scientifiques, ont contribué à l'enrichissement de la bourgeoisie. Ses représentants veulent désormais accéder au raffinement, au goût, à l'éducation de l'aristocratie, posséder un salon littéraire où ils peuvent recevoir l'élite intellectuelle et artistique du moment. Enfin, le commerce florissant de la Compagnie des Indes orientales crée en France un engouement sans précédent pour l'Orient. Marie Leschinska elle-même commande pour ses appartements des panneaux et des bibelots qui reflètent la vie en Chine, sa culture et son art. Thank you. Lorsque la reine arrive à la cour, après le séjour à Fontainebleau où se sont déroulées les festivités du mariage, elle trouve des appartements qui ne correspondent pas à sa dignité. Il faut donc envisager des travaux d'aménagement. Pour la décoration des pièces de son grand appartement où elle passe ses journées, la reine s'entoure d'œuvres d'art et notamment de portraits de sa famille. Ainsi, les peintres les plus talentueux, tels Alexis Simon Bell, Jean-Marc Nattier ou encore Pierre Gobert, sont appelés pour exécuter des portraits des 10 enfants royaux nés entre 1727 et 1737. La reine elle-même tient le pinceau pour son plus grand bonheur et a même fait aménager une des pièces de son appartement intérieur en atelier. En ce qui concerne l'aménagement même du château, Marie Leschinska souhaite, dès 1725, mettre sa chambre au goût du jour. Des boiseries exécutées par Vassé prennent place au-dessus de la cheminée, dont on renouvelle le marbre par le choix d'un sarran colin que l'on achemine depuis les Hautes-Pyrénées. Ce même marbre gris, veiné de rouge et de jaune, que Charles Garnier utilisera pour les 30 colonnes de l'escalier de l'Opéra Garnier. Quant aux virtuoses Verbecht, Dugoulon et Le Goupil, ils sculptent le décor entre les fenêtres. Au château de Versailles, où elle mène une vie réglée par l'étiquette, Marie Leschinska aspire à vivre. Bien avant Marie-Antoinette, elle contribue à développer les cabinets intérieurs qui se spécialisent et changent de nom en fonction des activités qu'exerce la reine. Car le souhait véritable de Marie Leschinska, bien qu'elle s'acquitte consciencieusement de son rôle de reine, c'est de vivre comme une particulière. Ainsi, chaque après-midi, elle se retire en son appartement privé pour lire, méditer et recevoir son cercle le plus intime. Son salon réunit ainsi de beaux esprits, dont le président Hénault, historien et correspondant de Voltaire, le ministre Maurepas, à la verve piquante, ou encore Paradis de Moncrif, lecteur de la reine, écrivain et philosophe. Elle apprécie la lecture, le dessin et la musique. Elle joue d'ailleurs régulièrement de la vielle, mais aussi du clavecin, de la guitare. La reine passe aussi de nombreuses soirées en compagnie de ses amis, le duc et la duchesse de Luynes. Soupant ou faisant des parties de cavagnole, le jeu semble être la seule passion avérée de la reine. La reine dit qu'elle aime la musique, et en effet il y a des opéras qui lui plaisent, mais on lui prête une préférence pour la cavagnole plutôt que la cantate, pour le jeu plutôt que la musique. Que l'on se ravise. Car dès le lendemain de son mariage, la reine organise des concerts. On y donne principalement des opéras à raison d'un ou deux actes par soirée, d'œuvres de Lully et Rameau, mais aussi de Campra, Francoeur ou Rebelle. Marie Leschinska n'hésite pas non plus à faire venir à Versailles des artistes de renom. Ainsi, le célèbre Castra Farinelli lui donne quelques cours de chant en 1737. Et le 1er janvier 1764 a lieu la fameuse réception du jeune Mozart, âgé de 7 ans, convié avec sa famille pour assister au grand couvert du roi. Wolfgang est debout à côté de la reine. Léopold, son père, près du roi, et Nannerl, sa sœur, entre le dauphin et Madame Adélaïde, qui joue elle aussi du clavecin et du violon. La reine, qui parle allemand, fait office d'interprète. À la fin du repas, Louis XV demande à entendre Mozart jouer de l'orgue. Une heure est convenue pour le lendemain, mais le roi, impatient, se lève et se dirige vers la chapelle royale. Tout le monde suit. L'enfant frappe une note prolongée, puis une autre, suivie d'un déluge d'harmonie. Le roi est stupéfait. Si Madame de Pompadour, la favorite, n'a su recevoir le baiser du jeune Mozart, Marie Leschinska, la reine du goût et du raffinement, elle, n'a pas résisté au charme et au talent du jeune prodige.
À réécouter sur francemusique.fr.